Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
Le livre biblique des Proverbes nous enseigne comment nous comporter avec sagesse sur des thèmes touchant notre quotidien. À présent, nous considérons ceux qui abordent les relations de l'homme envers Dieu. Nous avons appris la dernière fois que Dieu est digne de confiance. Nous pouvons nous appuyer sur sa sagesse et écouter sa parole. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres versets dont les Proverbes nous parlent de l'Éternel. Alain, dites-nous lesquels.
Oui, je voudrais citer quelques proverbes rappelant la toute-puissance de l'Éternel. Des proverbes qui prouvent qu'il est le souverain, le maître de toutes choses. Une amie va nous les lire.
Le chapitre 19, verset 21. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ensuite, chapitre 16, verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Chapitre 21, verset 31. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel.
Ces proverbes établissent un contraste entre les desseins que les hommes formulent et ceux établis par l'Éternel. Tous les desseins de Dieu s'accomplissent ou s'accompliront un jour. Ce que l'Éternel a dit se fera, ce qu'il a déclaré se réalisera. Or, l'homme ne tient pas toujours ses promesses ou ne parvient pas toujours à les réaliser. Vous pouvez par exemple formuler de beaux projets pour votre vie, particulièrement si vous êtes jeune. Vous pouvez aspirer à bénéficier d'une bonne éducation, éprouver le désir de fonder une famille ou bien vouloir partir à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. Avoir des projets dans la vie est motivant. Il donne une raison d'être. Toutefois, il faut l'avouer, les hommes ne sont pas maîtres de leur destin et malheureusement, tous leurs projets ne se réalisent pas forcément. Nous ne maîtrisons ni les temps, ni les circonstances, et bien des événements peuvent faire basculer nos vies, nous empêchant d'accomplir nos desseins.
Pouvez-vous donner quelques exemples précis ?
Oui, vous pouvez vous présenter à un poste de travail, mais c'est l'employeur qui décidera s'il vous l'accordera ou non. Vous pouvez essayer de le persuader de vos capacités, mais la décision lui appartient. Vous pouvez également envisager d'entreprendre un voyage pour rendre visite à votre famille ou des amis. Mais bien des événements peuvent vous contraindre à l'annuler. Le mauvais temps, une panne de voiture, une maladie.
En effet, l'homme est maître de bien peu de choses.
Effectivement, mais qu'en est-il de Dieu ? Qu'en est-il de tous les desseins de l'Éternel ? Tous, sans exception, s'accompliront et personne ne pourra l'empêcher de les réaliser. Il peut tout, maîtrise tout, et rien ne lui est impossible.
Et pourquoi est-il si important de comprendre cela ?
Cette vérité doit nourrir notre confiance en l'Éternel et notre espérance en lui. Elle doit nous inciter à mettre notre foi en Jésus.
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
Tout au long de l'histoire des hommes, l'Éternel a donné des promesses à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et nous devons avoir cette pleine assurance que l'Éternel tient sa parole. Il accomplira tout ce qu'il a déclaré, toutes ses promesses, absolument toutes se réaliseront. Quand un homme nous assure ou jure qu'il fera pour nous telle ou telle chose, nous ne pouvons pas forcément compter sur la réalisation de sa parole. Car même s'il est sincère, il pourrait rencontrer des empêchements, ne maîtrisant pas lui-même tous les événements et toutes les circonstances. Or, il n'en est pas ainsi avec le Seigneur. Il est le maître de l'univers, il est souverain, rien ne lui échappe, il peut tout et ne connaît pas d'obstacles. Prenons un exemple. L'Éternel promit à Abraham qu'il aurait un fils, alors que ni lui ni même sa femme n'étaient en âge d'en avoir. L'Éternel lui promit qu'à travers ses descendants, il deviendrait le père d'une nation importante ayant ses propres terres. L'Éternel lui déclara ces choses alors qu'Abraham lui-même était nomade. Enfin, l'Éternel lui promit que par l'un de ses descendants, toutes les nations de la terre seraient bénies. Or, Abraham, grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu, eut un fils. Et ses descendants devinrent une nation avec ses propres terres. Il s'agit de la nation d'Israël. Enfin, celui qui est source de bénédiction pour toutes les nations est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un descendant d'Abraham, et il est le sauveur des hommes en qui toutes les promesses de salut faites par l'Éternel à tous les peuples s'accomplissent.
Et nous pouvons nous appuyer sur ces promesses.
Oui, il convient toutefois de rappeler que certaines de ces promesses trouvent leur réalisation au moment où l'on met sa foi en Christ, d'autres par contre s'accompliront plus tard dans l'avenir. Par exemple, à l'instant où l'on confie sa vie à Christ, on reçoit le pardon des péchés. On vit avec l'Éternel une nouvelle relation. Il devient notre Père. On reçoit l'Esprit Saint et tous les bienfaits de Dieu dans nos vies. Cela ne représente toutefois que le début, car il nous fait aussi la promesse qu'il nous ressuscitera, que nous passerons de la mort à la vie éternelle, et c'est alors que ce beau projet de salut se réalisera totalement.
Comme ce projet de salut dépend de Dieu et non des hommes, nous pouvons avoir la certitude qu'il s'accomplira.
Tout à fait. Dieu est digne de confiance. Et je voudrais, avant de conclure, ajouter un avertissement.
Je vous en prie, lequel ?
Certains hommes pensent pouvoir s'opposer à Dieu et à ses desseins. Je voudrais souligner que cette opposition est vaine. Non seulement il est impossible d'arrêter Dieu dans ses plans pour l'humanité, mais le Seigneur aura le dernier mot et malheureusement tous ceux qui s'opposent à lui entendront une parole de jugement et de condamnation. Mais à tous ceux qui espèrent en l'Éternel, Jésus promet que ses desseins s'accompliront, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur situation. Qu'ils soient sans crainte, Dieu réalisera pour eux sa parole jusqu'à la fin, il les protégera. Un verset dans Philippiens au chapitre 1, verset 6 affirme « Je suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son avènement au jour de Jésus-Christ. »
À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui, après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouva totalement démuni et affamé. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et décide de rentrer chez lui. Mais alors qu'il était encore loin de sa maison, son père l'aperçut et courut à sa rencontre. Il désirait lui pardonner toutes ses fautes passées. Il voulait fêter son retour. Mais comment donc a réagi son fils aîné? C'est ce que nous allons encore considérer.
Le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi. » Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu et voici, il est retrouvé.
La dernière fois, nous avons compris, à travers les propos du fils aîné, qu'il ne jouissait pas d'une relation épanouie envers son père. Il ne l'aimait pas. Ce jeune homme se comportait envers son père comme un serviteur et non comme un fils. Nous avons aussi appris que le croyant peut tomber dans le même piège, celui d'être tellement fixé sur des lois et des devoirs qu'il en oublie que Dieu veut faire de lui l'un de ses enfants. Car Dieu veut que chaque homme ou chaque femme vive avec lui une relation personnelle, caractérisée par l'amour.
Nous avons donc vu la réaction de ce fils aîné. Aujourd'hui, nous allons considérer les réponses de ce père, confronté aux propos insultants et humiliants qui vient d'essuyer.
Oui, exact. Dans un premier temps, son père lui dit deux phrases qui soulignent à quel point il désire vivre avec son enfant une relation d'amour.
Quelles sont donc ces deux phrases?
Eh bien, le père dit d'abord à son enfant « Tu es constamment avec moi ». Et ensuite, « Tous mes biens sont à toi ».
Que voulait dire son père en lui déclarant « Tu es toujours avec moi »
Je pense que c'est une façon de lui dire « J'ai toujours été là ». J'ai toujours été disponible pour toi, mais tu n'as pas voulu en profiter. C'est aussi une façon de lui faire comprendre « Je suis encore là pour toi. Je voudrais que tu acceptes mon amour. Je voudrais que tu prennes plaisir à être avec moi. Que tu agisses envers moi comme un fils et non comme un serviteur. »
Oh, ce que ce père dit à son fils, Dieu le dit à chacun d'entre nous.
Oui, tout à fait, Yann. Beaucoup n'osent pas croire que Dieu est bon au point de nous considérer comme ses enfants. Beaucoup, hélas, refusent de croire que Dieu n'exige nullement de nous une quelconque servitude. Dieu désire nous offrir le meilleur, mais souvent nous acceptons si peu. Imaginons un jour d'anniversaire ou de Noël. Un enfant entre dans une pièce remplie de dizaines de cadeaux qui lui sont destinés. Bien sûr, il n'a pas l'habitude d'en recevoir autant. Mais imaginons maintenant qu'il en trouve un et qu'il s'en contente, laissant tous les autres de côté et n'osant pas croire que ceux-là aussi sont pour lui. J'ai bien peur que nous ayons la même attitude envers Dieu. Nous n'osons pas croire qu'il est réellement devenu notre Père Céleste. Et nous avons du mal à imaginer ce que cela représente d'être enfant de Dieu.
Et quand le Père dit à son fils « Tous mes biens sont à toi », c'est la même idée qui se dégage.
Oui, tout à fait. Un serviteur n'a pas la liberté de jouir des biens de son maître. Un fils a cette liberté. Il possède ce privilège. Or, ce père affirme qu'il n'a jamais privé son fils de quoi que ce soit. Ainsi, nous pouvons en conclure que c'est son fils qui n'a pas su profiter de sa liberté.
Je suggérerais donc qu'en tant que croyant, nous pouvons ne pas profiter pleinement de ce que Dieu met à notre disposition.
Oui, Dieu a fait de nous ses enfants et il nous bénit. Il nous accorde de si grands privilèges, des responsabilités aussi, il ne faut pas l'oublier.
Quels sont les bienfaits que Dieu a mis à notre disposition?
Ah, le temps nous fait défaut pour en donner une liste complète, mais voici toutefois quelques-uns de ces bienfaits. Et nous pouvons tous nous demander pour chacun d'entre eux, comment pourrais-je profiter davantage de ce bien? Comment m'épanouir davantage dans ma relation avec Dieu? Dieu nous a donné sa création, le monde naturel. Tout ce qui s'y trouve de bon est pour notre bien. Dieu nous donne encore sa parole, la Bible. C'est par elle qu'il nous parle. Quel privilège! Dieu nous donne son salut, le pardon du péché, l'espérance de la vie éternelle. Dieu nous a accordé de vivre une nouvelle relation avec lui. Nous pouvons le prier, marcher avec lui, profiter de sa présence bienfaisante dans nos vies, jour après jour. Voilà donc un petit aperçu de ce que Dieu nous a donné, et c'est à chacun maintenant d'oser en profiter.
Il est tellement dommage de ne pas toujours réaliser à quel point Dieu nous bénit spirituellement. Si seulement nous savions, comme nous en a fait part Flavien, oser profiter de la grâce de Dieu, alors la joie et l'espérance atténueront nos peines quotidiennes.
En souhaitant vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.